Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'insulte, c'est un film de Ziad Doueri qui raconte un violent conflit opposant un réfugié palestinien vivant à Beyrouth, où il n'a pratiquement aucun droit, à un chrétien libanais, membre d'un parti nationaliste virulent qui rend les Palestiniens du Liban responsables de tous les maux. À la suite d'une histoire embrouillée, d'insultes et de coups, le chrétien libanais porte plainte contre le réfugié palestinien. Rapidement, le procès devient celui d'un pays déchiré par une guerre fratricide où on découvre que certains coupables sont aussi des victimes, que le chrétien libanais l'est tout autant que le pauvre réfugié palestinien. Personne n'a le monopole de la souffrance, dit un des avocats, livrant là une des clés de ce beau film. Quand Adila Benedjaizou m'a parlé pour la première fois il y a plus d'un an de son souhait d'enquêter sur l'histoire d'un migrant accusé de viol par un groupe de jeunes femmes à Bayonne, j'ai d'abord été un peu effrayée. Quand elle m'a parlé des zones d'ombre de cette histoire et de sa conviction qu'il y avait matière à enquêter, c'est-à-dire que le migrant n'était peut-être pas si coupable que ça, je dois dire que j'ai été encore plus effrayée. Par la complexité de la situation, la loi du silence qui prévaudrait sûrement au Pays Basque, les témoignages et les preuves qu'on n'aurait pas, et puis l'idée qu'on n'est pas là pour se substituer à la justice. Plus que tout, ce qui nous a inquiétés dans les discussions qui ont suivi, c'est le double risque qu'on prendrait. Soit on passait pour sexiste si on mettait en doute la parole des femmes violées, soit pour raciste si on accusait à tort un migrant sans défense ni papier. Et puis j'ai pensé à cette phrase du film de Doueri, et je me suis dit que c'était ça le sujet de l'histoire, le monopole de la souffrance et la concurrence des victimes. Dans le doute, si on n'a pas de preuves et qu'on n'est pas sûr, doit-on supposer qu'il y a des victimes qui souffrent plus que d'autres ? Les femmes victimes de sexisme souffrent-elles plus que les personnes racisées, victimes de racisme ? Y a-t-il des victimes plus victimes que d'autres ? Cet horizon théorique n'a pas calmé nos inquiétudes, mais il nous a semblé suffisamment intéressant pour les surmonter ou les assumer. Et c'est ainsi qu'Adila s'est mise en tête d'en savoir plus sur l'affaire Salif B, dont voici le premier épisode, tout de suite donc dans Les Pieds sur Terre, une série d'Adila Benedjaizou, réalisée par Clémence Gross, 4 épisodes toute cette semaine, puis en replay et en podcast sur toutes les bonnes applis.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je me rappelle très bien la fête de Bayonne. C'est une grosse fête internationale, je pense, parce que c'est très connu, en fait, dans le monde entier. Et voilà, mais moi, je ne connaissais pas à l'époque, hein, quand je suis arrivé ici. Et je ne parlais même pas le français comme aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont acheté des trucs blancs et rouges, parce qu'on s'habille comme ça. Voilà, c'est les habits de la fête de Bayonne. Et ils m'ont proposé de lancer la clé, de faire l'ouverture, en fait, de cette fête. C'était au Petit Bayonne, donc au centre-ville. C'était pas à la mairie, quand même. C'était dans un bar. Voilà, c'était génial, quoi. Voilà, et tout. Et c'était magnifique. Quoi. Mais il y a des problèmes qui m'arrivent. Ça retourne contre moi aujourd'hui. Il y a des gens qui m'accusent. Donc, ils m'envoient des messages bizarres. Pourquoi moi ? J'avais rien violé. Enfin, je suis pas un violeur. Pourquoi ils m'envoient ces genres de messages ?
Je déclare ouverte les fêtes de Bayonne 2017.
À Bayonne, pour lancer la période des fêtes annuelles, le maire lance aux habitants les clés de leur ville. Mais dans le quartier qu'on appelle le Petit Bayonne, c'est à un migrant sans papier qu'on a demandé de le faire. Cet attachement à la tradition locale et la capacité de la détourner pour en faire un acte de solidarité est caractéristique du Pays Basque à mes yeux. C'est pourquoi j'ai été très étonnée quand on m'a rapporté que des migrants se plaignaient d'une cabale montée contre l'un d'entre eux. Salif, un Sénégalais, a été accusé de viol et puni collectivement par un groupe de femmes. Elles l'ont convoqué, jugé sommairement, lui ont confisqué les clés de son appartement et lui ont ordonné de quitter la région. Vous allez me dire que c'est impossible de virer quelqu'un de son propre appartement et de le bannir. Mais dans ce cas précis, l'accusé est un migrant et les accusatrices sont des hébergeuses solidaires qui l'accueillaient chez elles. Ce qui m'a surpris, c'est que Salif prétendait qu'il était innocent, qu'il était victime de jalousie et de racisme. Alors, j'ai décidé d'aller y voir de plus près. Et comme Salif avait quitté la France, j'ai d'abord rencontré son meilleur ami, Kambal. D'où venez-vous, Kambal ?
Moi, je suis soudanais, je viens du Soudan. En France, je suis arrivé le 7 août 2016. Je suis arrivé à Paris, à Stalingrad, je pense, La Chapelle. Voilà, j'étais dans la rue pendant à peu près 2 mois, 45 jours. Puis après, j'étais transféré par l'État français, voilà, pareil, à Bayonne.
Cette histoire a lieu avant le confinement. Et l'un des endroits de France où la crise de l'accueil des exilés était la plus sensible à l'époque, c'est Bayonne. À partir de l'été 2018, la ville a vu arriver des dizaines, puis des centaines de migrants. Très vite, les initiatives d'entraide et de solidarité se sont multipliées. La ville est devenue un genre de laboratoire de l'accueil, un exemple de ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien. Dans cette ambiance générale de solidarité, pour que des hébergeuses solidaires, des militantes pour les droits des exilés, en viennent à se retourner contre eux, c'est forcément qu'il s'était passé quelque chose de grave.
Et là, j'avais entendu cette histoire. Il y a Salif qui avait violé 4 filles, 2 mineurs et 2 adultes. Mais il ne faut pas blaguer, là, sans déconner. Et il m'a dit, bah oui, comme je l'ai dit, c'est vrai. Mais comment ça, mais j'avais... Enfin, je viens de quitter Bayonne, là, mais... On était tranquille là-bas. Et comment ça? Et quand ça? C'est pas normal. 4! Enfin, d'un coup, 4 filles! Explique-moi. Salif, c'est un violeur. C'est dangereux pour toi. On t'appelle pour te protéger. Il faut que tu fasses attention. Tu le bloques sur Facebook, sur WhatsApp. Tu le revois plus. Si tu le vois, c'est fini entre nous et toi. Puis après, j'étais en train juste de discuter avec Salif. Il m'a tout raconté. Je connais son histoire parfaitement. Je peux pas le défendre lui-même, Salif. Je peux pas défendre à Salif parce que c'est son truc. Mais il y a des problèmes qui m'arrivent. Il y a des gens qui m'accusent, qui m'envoient des messages bizarres. Et voilà, comme ça.
SMS signé Noémie. La parole des femmes ne vaut pas moins que celle des hommes et je ne vais pas me taire. Tu as protégé un violeur en dénigrant notre parole. Ce temps-là est terminé. C'est trop facile. Tu es un lâche et non une victime. Et ça va se savoir.
Pourquoi ces messages? Elle pense que moi, je ne peux pas vivre sans elle. Mais c'est n'importe quoi. Moi, je n'ai pas pris l'avion. J'ai traversé la Méditerranée, j'avais payé. Personne ne m'avait aidé. J'étais menacé et tout, j'avais payé. Il y avait des flingues et tout. Un viol, c'est grave. Moi, voilà. Moi, j'ai une mère, j'ai des soeurs, qu'ils peuvent, malgré l'âge de ma mère, ils peuvent être violés. Je ne peux pas être d'accord avec un viol, enfin... C'est grave, c'est hyper grave, hein. Mais je ne peux pas juger un viol. Je ne peux pas juger un violeur. C'est un truc qu'on peut le gérer par la justice.
Ce qui indigne le plus Kambal et Salif, c'est que ces femmes ont décidé de se faire justice elles-mêmes. L'une d'elles a donné rendez-vous à Salif et il s'est retrouvé nez à nez avec plusieurs personnes devant un bar. Il a le sentiment d'avoir été piégé et il me raconte tout ça par téléphone.
Il y a tout le monde qui sort. Il n'y a que 2 filles, il y avait 2 garçons. Coralie qui vient, c'est elle qui dirige le groupe. Elle vient d'avant, elle vient près de moi. On est au milieu, moi, elle, tout le monde nous a entourés. Voilà, Salif, ce que tu as fait là, c'est mauvais. J'ai fait quoi? Tu as violé 4 jeunes filles. J'ai violé 4 jeunes filles. J'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est faux. Comment je peux faire ce genre de choses? J'ai dit, où et quand? Où sont ces jeunes filles? Mais j'ai dit, mais ça se loose. Il y a d'autres qui m'insultent. Violeur, violeur. Ils font tout, crasser sur moi, me taper de gauche à droite. Et il y a des garçons qui sont venus derrière moi. L'autre là a pris mes 2 pieds derrière. L'autre m'a tabassé ici au dos. Je suis tombé. Et les filles sont venues me tabasser. Après, il y a des gens qui s'approchent un peu, qui voyaient la foule. Et c'était nombreux maintenant. C'était comme un match de foot. Il y a des personnes qui disaient, oui, les Africains sont comme ça. Il y a d'autres personnes qui disent, non, cette personne-là, si vraiment ce qu'il a dit, c'est vrai, pourquoi vous n'appelez pas la police? Automatiquement, il y a la police qui vient. Bon, je commence à expliquer, il me dit non, présente-toi. Tu as des pièces d'identité ici? Je dis non, j'ai qu'une récépissée. Je suis un demandeur d'asile, je suis un immigré. Puis mon récépissé, c'est pas valable, c'est périmé. Il garde. Il y a la police qui les demande, ils refusent de parler. Il y a la police qui dit venez, on va partir. Ils refusent de partir. C'est moi qui pars. Seul négro qui part, je n'ai personne qui m'aide.
Après avoir vérifié qu'il n'y avait aucune plainte pour viol qui avait été déposée, la police a décidé de relâcher Salif. Privé d'aide en France, il est parti pour l'Allemagne.
Ça va, c'est pas trop dur en Allemagne?
Bon, c'est dur, hein, franchement, si je ne veux pas vous mentir, c'est dur.
Pour préciser la situation, 5 femmes accusent Salif de viol. Leurs prénoms ont été remplacés par des pseudonymes pour préserver leur anonymat. Coralie, la coléreuse, parle au nom du groupe. Noémie, l'intraitable, est celle qui a amené Salif devant le bar. Cathy, la mystérieuse, l'aidait pour son dossier de demande d'asile. Marianne la douce a hébergé Salif plusieurs fois et Lucie la discrète est une amie de Coralie. Il faut savoir que parmi ces 5 femmes, aucune n'a porté plainte ni ne se déclare victime. Elles disent parler au nom des véritables victimes qui ne veulent pas être exposées. Allô ? Allô ?
Oui.
Salif ?
Allô ?
Bonjour, c'est Adila.
Bonjour Adila, ça va ?
Et vous, comment ça va ?
Oui, ça va, je vais bien.
Je vous réveille ?
Non.
Ah, d'accord. J'ai longtemps hésité à raconter l'histoire de Salif, car elle pose des questions inextricables. Est-ce qu'on peut se faire justice soi-même ? Est-ce qu'on peut mettre en doute la parole d'une femme violée ? Comment fait-on dans un conflit qui oppose 2 groupes de personnes dominées ? Sans compter que toute cette histoire met en cause les membres d'un collectif d'hébergeurs solidaires. Et à mes yeux, ces gens sont de véritables héros.
Ça va ?
Bonne année.
Merci beaucoup.
Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. The number you have dialed is not assigned. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben.
Vous savez toujours pas si vous allez revenir en France, pas tout de suite. En France, pour pallier l'inaction publique, il existe des réseaux d'aide aux migrants. Des gens qui hébergent et aident des inconnus, alors même que, comme Cédric Héroux, ils risquent d'être condamnés pour ça au nom du délit de solidarité. Mais je n'en fais pas partie. Je ne fais aucune action solidaire. Comme la plupart d'entre nous, j'y pense souvent et je me dis que plus tard, peut-être, quand j'aurai plus de place chez moi, plus de place dans mon emploi du temps, plus de place dans ma vie. Mais évidemment, il n'y a jamais plus de place dans ma vie. Alors même que je sais que depuis 2013, près de 20 000 réfugiés sont morts en Méditerranée. Alors même que je vis dans un quartier, La Chapelle, où des centaines d'exilés, dont des enfants, dorment dans la rue toutes les nuits. Si, alors que rien de tout ça ne me fait réagir, l'histoire de Salif m'intéresse, c'est précisément parce qu'elle raconte la difficulté d'héberger. Les problèmes que ça pose d'aider quelqu'un et ce que ça peut signifier pour chacun de nous de faire le bien. Alors je suis allée voir Évangeline Masson-Diez, qui travaille sur les questions d'hébergement solidaire, et je lui ai demandé si les histoires de ce genre étaient fréquentes.
Officiellement, j'ai jamais eu vent d'accusation de viol ou d'exploitation sexuelle, de logement contre relations sexuelles ou de gestes déplacés. Officieusement, il y a 2-3 histoires qui circulent. Sans nom, sans prénom, sans lieu, sans date, sans heure, sans plainte. Des bruits de couloir. Voilà. Dans les 2 sens. C'est-à-dire que c'est autant des bruits de couloir ou des rumeurs d'aidants qui profiteraient de la situation des exilés que d'exilés qui profiteraient de l'engagement des aidants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les méchants et de l'autre côté les gentils. C'est pas binaire. Ça saute aux yeux qu'on est majoritairement face d'un côté à des femmes blanches qui ont entre, on va dire, 25 et 40 ans et de l'autre côté, majoritairement, des jeunes hommes noirs de 17 à 30 ans. Donc forcément que la question du genre, la question de la séduction, la question de la relation qui se tisse, est-ce qu'elle est amicale, est-ce qu'elle est familiale, est-ce qu'elle est amoureuse, se pose. On est aussi dans des rapports de pouvoir, on est aussi dans des rapports de personnes qui savent et d'autres qui ne savent pas. Entre celui qui a de l'argent, celui qui n'en a pas. Entre celui qui a les papiers et celui qui n'en a pas. Il y a forcément une relation, on va dire, dissymétrique, auquel se rajoute parfois un peu d'exotisme. Toutes ces initiatives et ces mobilisations se sont aussi mises en place parce qu'il y avait des défaillances de l'État, parce qu'il y avait des carences institutionnelles, parce qu'il n'y avait pas de prise en charge officielle et de prise en charge professionnelle. Donc ouais, il y a des incidents de parcours et il y a des pots cassés. Et tous ont peur d'en parler parce que si on en parle, on se dit qu'effectivement, on va faire le jeu du Front National ou on va faire le jeu du discours sécuritaire à l'égard des migrants ou qu'on va presque tendre le bâton pour se faire battre, en fait. Ça fait naître de la souffrance pour tous les protagonistes et des incohérences pour tous.
Allô ?
Allô ?
Ouais ?
C'est Adila.
Salut.
Comment ça va ?
Ça va bien et toi ?
Bah ouais, ça va, je me suis fait vachement de soucis. Comment ça se fait que tu m'as pas rappelé ?
Bah, je sais pas, c'est comme ça.
C'est en parlant avec Évangeline que je me suis rappelé que moi aussi j'avais hébergé quelqu'un. Il y a très longtemps. À une époque où on ne disait pas encore migrant, mais sans papier.
Tu te rappelles pas notre dernière discussion ? Je t'ai posé une question. Pourquoi tu m'as pas amenée à l'ambassade quand t'as compris qu'il venait de se passer ? Pourquoi tu m'as pas prise par la main et pourquoi tu m'as pas emmenée à l'ambassade ? Je t'ai clairement signifié ça et toi, la seule réponse que t'as eu envers moi, c'est « je veux pas que t'interviewes ».
Je t'ai proposé de t'interviewer parce que je travaille actuellement sur une question de migrants. Et que
voilà, ça aussi, c'est très insultant.
J'ai beaucoup bataillé avec Anna pour vous faire entendre cette conversation. Elle trouve que j'expose trop son intimité, et moi je pense qu'une partie de cette histoire m'appartient. Alors, dans ce que vous êtes en train d'entendre, il y a ma vraie voix, mais pas la sienne.
Quand vous êtes arrivés à Paris, il n'y avait personne d'autre que moi, David et Jérôme dans l'appart qui vous connaissaient et qui se préoccupaient de vous.
Très bien, tant mieux. Si tu donnes bonne conscience comme ça, c'est très bien.
Me donne pas bonne conscience.
Quand j'ai fait la connaissance d'Anna, elle avait 9 ans. Elle et son père venaient d'arriver en France pour demander l'asile politique. Et ils ont habité chez moi pendant quelques mois. Son père m'a avoué qu'il était parti sans prévenir la mère d'Anna, dont il était séparé. Comprenant qu'il avait commis un kidnapping, je l'ai pressé de dire la vérité à sa fille, mais je n'ai rien fait de plus. Et c'est précisément ce que me reproche Anna aujourd'hui. De ne pas avoir dénoncé son père à la police, de ne pas l'avoir ramené à son ambassade, d'avoir été complice de son kidnapping.
Alors pourquoi t'as pas été voir la police tout de suite ?
Parce que la seule chose qui risquait de vous arriver si je faisais ça, c'est de vous retrouver tous les deux en centre de rétention, d'accord ? Pour être renvoyés je sais pas où. Donc moi, je ne vais pas dénoncer des gens. En France, on arrête et on met en prison les étrangers en situation irrégulière.
Je pensais vraiment à l'époque que c'était une erreur de prévenir les autorités, qu'Anna et son père auraient été expulsés. J'étais persuadée qu'être renvoyée dans son pays était la pire chose qui puisse arriver à Anna.
Je me suis peut-être trompée, j'ai peut-être fait une grosse connerie, ça a peut-être joué un rôle atroce dans ta vie, je suis désolée, mais moi, les cartes que j'avais en main à ce moment-là, c'était ça.
C'était il y a 19 ans. Aujourd'hui, Anna est une jeune femme d'une beauté et d'une intelligence hors du commun, mais elle souffre terriblement et n'arrive pas à construire sa vie. Elle ressasse sans cesse son kidnapping et son exil.
D'accord. Donc en fait, toi, ce que tu voudrais, c'est qu'on coupe les ponts.
Ouais.
Et si moi, je veux pas rompre les relations avec toi, qu'est-ce que je peux faire ?
Je sais pas.
Et je me dis à présent qu'elle aurait peut-être été plus heureuse dans un pays, même pauvre, même en guerre, qui était le sien. Et que j'ai été bien présomptueuse de décider à sa place ce qui était bien pour elle.
De temps en temps des appels téléphoniques ?
On peut le faire de temps en temps, on peut. Mais t'es pas obligée en fait, c'est ça que je t'explique aussi.
Non mais moi j'ai pas envie que tu sortes de ma vie, enfin je comprends pas. Tu m'annonces ça genre... comme si...
Je crois que j'ai commencé cette enquête presque uniquement pour ça.
Depuis longtemps.
Pour régler ma culpabilité vis-à-vis d'Anna.
Voilà, d'être présente.
Absolument pas. Je le fais pas parce que c'est un fardeau. C'est pour ça que ça me fout les boules si tu me dis « on se voit plus ». C'est pour ça que j'essaie de trouver des solutions pour avoir des nouvelles de toi parce que moi, j'ai pas du tout envie de rompre les relations. Mais en tous les cas, je m'en fous. Moi, je t'aime, d'accord? Depuis qu'on s'est rencontrés. Donc, je te demande de trouver une solution pour qu'on garde une forme de contact. Pour moi.
Et comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas une grande réussite. C'est parce que je me suis plantée avec Anna que ça m'intéresse autant de voir comment font les autres, de comprendre ce qui a poussé Coralie et ses amis à passer de la compassion à la fureur. Bien sûr, si Salif a violé des femmes qu'elles connaissent, l'explication est toute trouvée. Mais quand j'ai voulu retrouver les véritables victimes, je me suis rendu compte que finalement, elles n'étaient plus quatre, ni trois, mais deux. Et surtout, que personne ne pouvait me dire réellement qui étaient ces victimes.
Donc, vous avez parlé à une victime qui vous a dit « Salif m'a agressé sexuellement et il s'est passé ça ». Vous lui avez parlé directement et vous a dit…
Pas directement, non. C'est des femmes et c'est des amis proches et il n'y a pas besoin que ça se crie sur tous les toits de Bayonne non plus. Quoi. Donc, moi, si vous voulez, c'est des gens qui sont hyper impliqués dans tout ce mouvement et je ne vois aucune raison personnelle. Et après, pour ça que je ne vais pas en parler 50 ans… On n'est pas dans un monde de tordus, nous, ici.
Il peut y avoir
non, des quiproquos. Non, je ne pense pas qu'il peut y avoir des quiproquos quand il s'agit d'agression sexuelle. Je ne pense pas.
Toutes les personnes à qui j'ai parlé m'ont dit peu ou prou la même chose. La parole d'une victime de viol est sacrée. Ces femmes avaient droit à la tranquillité et je n'avais pas à les déranger avec mes questions.
Vous, c'est quelque chose qui vous a surpris quand on a parlé de Salif comme de quelqu'un qui violait des jeunes femmes?
Malheureusement, on est de moins en moins surprise par la multiplication des témoignages. Alors, hommes de pouvoir, hommes de, entre guillemets, hommes de sans pouvoir, bon, je sais pas vraiment, ça me surprend plus, en fait. Si vous voulez, j'ai fait le choix, en général, de prêter du crédit aux femmes qui... portent ce genre d'accusations, en particulier quand elles sont plusieurs à s'exprimer sur le même homme. Donc oui, honnêtement, on est déçus, on est tristes, on s'interroge. Mais... surprise ou incrédule, j'essaie de pas l'être.
Alors ça, c'est un point capital. Aujourd'hui, une grande partie des féministes estiment qu'il est tellement difficile et douloureux pour la victime d'un viol de faire condamner son agresseur qu'on doit la croire sur parole. Le problème de cette attitude, c'est qu'elle met à mal deux droits fondamentaux des accusés qui sont la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable. Il y a eu de nombreux débats sur la question et je dois avouer que ça ne me dérange pas que des réalisateurs soupçonnés d'agression sexuelle soient boycottés par des groupes féministes. En gros, en temps normal, je suis de celles qui se lèvent et qui se barrent. Mais là, je suis en plein dilemme. Car le fait que Salif, exilé sans papier et sans droit, soit privé d'un procès équitable et condamné sans preuve, me paraît plus problématique.
Le déni est quelque chose de très fréquent dans les agressions sexuelles. Il n'y a qu'à voir Weinstein, Luc Besson, Roman Polanski.
Enfin, là, on n'est pas en train, excusez-moi, on n'est pas en train de parler ni de Weinstein ni de Luc Besson, on est en train de parler d'un migrant sans papier.
En général, dans lesquels il peut y avoir des dénis.
Est-ce que vous en avez parlé avec des migrants pour avoir leur opinion?
Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vont vous raconter? Demander à des hommes qui viennent de sociétés plutôt patriarcales où la femme se fait couper le clitoris dans certaines régions.
Non, mais attendez. Dans les sociétés traditionnelles, un viol est un viol. C'est pareil qu'en Europe.
Non, pas du tout. Absolument pas. Vous rigolez ou quoi? Ça viole à tout va dans les pays du Maghreb et les femmes ne portent pas. Non, mais vous rigolez. Non, un viol n'est pas un viol. Un viol est un.
En fait, ce qui m'ébranle, c'est qu'à Bayonne, personne veut écouter la version des migrants. Personne. C'est pas interdit juste d'émettre un doute, quoi. C'est pas interdit.
C'est pas interdit. Vous pouvez l'émettre.
Il y a une chose qui me fait peur dans cette affaire. Je crains soit d'être sexiste, soit d'être raciste. Mais je pressens que cette histoire a bien plus de dimensions qu'il n'y paraît, et je décide de prendre le risque. Oui, j'ai le droit de douter.
Allô, Salif ?
Oui ?
Vous êtes dans quelle ville ?
Je suis à Bissel.
Ça s'écrit comment ?
Bissel. C'est G-I-E-B-E-L. Mais Bella, c'est comme deux vœux, quoi, en fait, en français.
Bissel. C'est quoi la grande ville la plus proche ?
Francfort.
C'est comme ça que j'ai décidé d'aller en Allemagne à la rencontre d'un violeur potentiel.
C'était l'affaire Salif B, le premier épisode intitulé « Peut-on mettre en doute la parole d'une femme violée ?» Une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Clémence Gross. Merci à Kambal, Salif, Evangeline et Anna. Merci également à Gilles Lavanant, à Marie-Constant, à Karen Akoka, à Sandrine Chaperon, à Camille Richir et à Sarah Djeriwi.